Simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement parce que tu nous aimes. Simplement parce que tu es au milieu de ton Église. Simplement parce que tu marches avec nous. Simplement parce que tu es le Seigneur. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur pour ta sainte présence. Je demande que tu ouvres le ciel ce matin. Je demande que tu nous visites d'en haut ce matin, qu'il y ait un avant, qu'il y ait un après. Seigneur, je demande ton intervention ce matin. De moi-même, je ne pourrais rien faire, Jésus. De moi-même, je ne pourrais rien faire. J'ai besoin de ton esprit ce matin. J'ai besoin que tu convainc les gens. J'ai besoin que tu convainc ceux qui sont sur Zoom. J'ai besoin que tu convainc ceux qui sont ici, en ce lieu. Ceux qui écoutent, qui s'attendent à toi, Seigneur. Qui espèrent, qui mettent leur espérance en toi. Ce matin, je demande ton intervention. Viens, Seigneur, avec nous et manifeste ta sainte présence. Amen, amen. Amen, amen. Je vais vous demander de vous accrocher ce matin. J'ai 14 pages à débiter ce matin. Alors, s'il vous plaît, suivez-moi ce matin. Accrochez-vous, on est parti. Je pense que Dieu va nous parler ce matin. Dieu va prendre en charge notre vie. Dieu a quelque chose à faire. Dans les temps que nous vivons aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose. Alors que nous sommes ceux qui sont sur terre, Dieu est dans les cieux. Il est notre Dieu et qui regarde à notre vie. Ce matin, je vais parler de quelque chose qui a changé ma vie. Ma vie a été révolutionnée par rapport à ce que je vais vous apporter. Pourquoi ? Parce que on peut toujours prier d'une manière, mais quand la lumière de Dieu vient sur vous, votre compréhension change. Quand la lumière de Dieu intervient sur votre chemin, votre manière de faire change. Ça a changé ma manière de faire, ça a révolutionné ma manière de penser. Alors ce matin, j'espère que vous êtes prêts. Parce que le texte va être un texte hyper fort. Ça a été déjà pris par Philippe, ça a été repris par André, et le Seigneur insiste encore aujourd'hui. C'est le texte, vous connaissez bien, sur Gédéon. Vous connaissez ? Ok. On va prendre Juges 6. Juges 6, le verset 11 jusqu'à 16. L'histoire de Gédéon se trouve dans Juges. Juges 6, à partir du verset 11 jusqu'à 16. Je lis au nom du Seigneur. « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Vous vous rappelez ? Ok. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourne vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » L'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Si tu veux encourager quelqu'un ce matin, tu peux déjà lui dire, l'Éternel restera jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que tu apporteras ton offrande. L'Éternel restera avec toi. Reçois-le pour votre cœur ce matin. L'Éternel restera avec votre famille. L'Éternel restera avec toi là où tu seras. Si je savais vraiment qui j'étais, j'aurais fait les choses autrement. J'aurais fait plus attention dans les choses à venir. J'aurais été beaucoup plus prudent. Peut-être j'aurais résisté plus à l'ennemi si je savais que je suis moi. Tout ce que je vais apporter ce matin est fondé sur quelqu'un que vous connaissez bien. Tout ce que je vais apporter ce matin, tout ce que je vais dire est fondé sur Dieu. Dieu, celui qui dirige et règne sur tout, celui qui a un contrôle absolu, Dieu, l'omnipotent, omniscient, omniprésent, Dieu, le El Shaddai, celui qui est largement suffisant par lui-même, le consolateur d'Israël, Dieu, le Dieu puissant, le tout-puissant comme on a chanté tout à l'heure. Personne ne l'a fait entrer, personne ne le fera sortir, il est Dieu. Tout ce que je vais dire va être centré sur Dieu et ça va être la base de tout notre cheminement. Dieu, le grand souverain sacrificateur, celui qui a créé le monde, que personne ne peut destituer, celui qui est au-dessus du cercle de la terre, celui qui vous donne le mouvement, l'être, la liberté, l'oxygène, la vie, l'activité, Dieu. Dieu, celui qui maintient le battement de votre cœur. Dieu, où est Dieu? Est-ce qu'on peut entrer en contact avec Dieu? Où Dieu vit? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Où est Dieu? Si Dieu crée les cieux et la terre, il ne pouvait pas être à l'intérieur des cieux ou à l'intérieur de la terre. On est d'accord? Alors où est Dieu? Si vous voulez localiser l'endroit où Dieu se trouve, comment vous allez faire? Parce que nous savons que le trône de Dieu est dans les cieux maintenant. Mais à un moment donné, la parole dit au commencement. Au commencement, Dieu créa. Et on ne peut pas créer quelque chose et y être dedans. Dieu habite quelque part. Dieu était là avant la fondation du monde. Dieu a créé avant qu'il n'ait quoi que ce soit à créer. Aussi loin que je puisse comprendre Dieu, aussi loin que moi je puisse voir Dieu, Dieu est éternel. La Bible parle beaucoup de choses que si nous ne le comprenons pas, on peut pas le... Oui, il y a une manière, il y a des choses qu'on doit absolument comprendre pour bien comprendre la Bible. Il y a des promesses dans la Bible, si tu ne comprends pas très bien, les promesses n'ont aucun effet sur ta vie. Je lis par exemple dans 1 Pierre 1, c'est écrit comme ça. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et qui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Le but est que votre foi et que votre espérance reposent sur Dieu. Tout ce que nous allons partager repose sur Dieu. Et la parole dit... prédestiné avant la fondation du monde. Ce qui signifie que, avant que ce soit manifesté pour la fin des temps, c'est déjà manifesté au commencement. Ce qui signifie que Dieu, par lui-même, a vécu les choses avant que ce soit ancré dans le temps. Quoi que vous puissiez demander, quoi que vous pourriez vivre, ça s'est déjà manifesté en Dieu dans le commencement. Si ce que la parole dit, l'agneau a été immolé dès la fondation du monde, est valable, à un moment donné, l'agneau est venu dans le temps. Et à un moment donné, l'agneau a ouvert la croix. Alors que, avant que ça se passe, la parole dit que l'agneau est immolé. Avant que ça se passe. Ça veut dire que il y a des choses qui sont déjà dans l'éternité, qui existent déjà dans l'éternité, par rapport à ce que nous vivons. Si c'est ce que Jésus a vécu, par rapport à ce que nous vivons, il y a des choses qui existent déjà dans l'éternité. Dans l'éternité, je suis déjà béni. Dans l'éternité, je suis déjà guéri. Dans l'éternité, il n'y a pas de maladie. Dans l'éternité, il n'y a pas de chaise roulante. Dans l'éternité, il n'y a pas de chambre d'hôpital. Dans l'éternité, il n'y a pas de divorce. Dans l'éternité, il n'y a pas de persécution. Il n'y a pas de guerre. Dans l'éternité, il n'y a pas tout cela. Et ça existe déjà dans l'éternité. Dans le psaume 39, c'est écrit comme ça. « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie est comme un rien devant toi. Tout homme debout n'est qu'un souffle. » Dieu vit dans l'éternité. L'éternité, il y a dans notre compréhension, il y a l'éternité passée au commencement. L'éternité passée, c'est quelque chose en fait qui est... André a dit que c'était un oxymore. Je ne sais pas s'il se souvient, mais... C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Éternité, passé. Le passé, pour nous, c'est défini dans le temps. Nous, nous sommes dans le temps. Dieu est dans l'éternité. L'éternité n'est pas dans le temps. Mais pourquoi nous sommes placés dans le temps? Nous sommes placés dans le temps pour que nous considérions que la vie que Dieu nous donne est précieuse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Le temps passe. Il y a tellement de choses à faire. Mais Dieu nous a placés dans le temps pour que nous sachions exactement que notre vie est précieuse. Jérémie 1, c'est dit comme ça. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Avant que toi, tu as rencontré ta maman, avant que les chevilles de ta maman enflent, avant que les choses se passent dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Tu existais avant tout cela. C'est ce que dit la parole. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que je t'eusse sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire que, avant que nous apparaissions, nous tous ici, nous existons déjà avant le temps. Avant que tout se forme dans le ventre de ma maman, j'avais déjà une relation avec Dieu. Je connaissais déjà Dieu. Je connaissais déjà qu'il avait quelque chose à faire pour moi. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'à un moment donné, il dit, « Reed, je te mettrai dans le temps. À un moment donné, je te mettrai dans le ventre de ta maman. Et tu oublieras que nous avons eu une relation. Nous avons parlé ensemble, existé en Dieu ensemble. Avant, dans le ventre, avant le ventre de ta maman, je te connaissais déjà. » Voici ce qui est écrit dans Romains 8. « Car ceux qu'il a connus d'avance, avant, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Souvenez-vous, l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Et nous, nous sommes prédestinés à être semblables à Jésus. Avant que Jésus soit dans le ventre de Marie, il était en Dieu. Il était déjà l'agneau immolé. Donc ça existe déjà, c'est déjà fait. Il y a l'éternité, il y a des choses qui se passent dans l'éternité, l'agneau immolé dans l'éternité. Il y a des choses qui se passent dans le temps. Et dans le temps, ça doit être manifesté pour la fin des temps. Il nous a prédestinés à être l'image de Jésus. Moi, j'ai rencontré le Seigneur quand je suis venu en Suisse. Quand j'étais encore à Madagascar, élevé dans une famille luthérienne, j'ai fait des choix de ma vie. Moi, ma vie, c'était le sport et la musique. Je voulais devenir une star de la chanson et gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ça, c'était mon rêve. Mais Dieu, à un moment donné, j'étais à Lausanne, j'assistais à un temps de louange. Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais à peine je suis entré dans la salle, je me suis assis. La présence de Dieu vient sur moi et je commence à sangloter. Je commence à sangloter. Et tout d'un coup, Dieu touche mon cœur. J'étais convaincu de péché, mais vraiment convaincu de péché. Et c'était à ce moment-là que tout a commencé pour moi. J'ai rencontré Flo en 94, début 94, 28 janvier. Et quand j'ai vu Flo, j'ai entendu une voix dans mon cœur. J'ai entendu une voix dans mon cœur qui dit, voilà, c'est ta femme. C'est bizarre, hein? Comment je peux connaître la voix de Dieu sans connaître la parole? Comment je peux connaître la voix de Dieu sans me convertir? Comment je peux connaître la voix de Dieu sans une référence biblique? Mais moi, j'ai entendu dans mon cœur, c'est ta femme. J'existais en Dieu, j'avais une relation avec Dieu et j'ai reconnu que c'était sa voix, même si je ne connaissais pas sa parole. J'ai reconnu la voix de Dieu dans mon cœur. Je pourrais passer du temps à faire des choses dans ma vie, à faire des choses, tout ce que j'aime, comme le sport, comme la musique, et ne pas tenir compte de cette voix. Mais ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où il y a un appel qui vient sur votre vie, à partir du moment où vous croisez le temps où Dieu vous appelle, il se passe quelque chose. Vous pouvez vous tenir, être dans un bar, être dans une dancing, vous pouvez être loin du Seigneur, mais à un moment donné, l'appel de Dieu vient sur vous. L'appel de Dieu vient sur vous et vous vous souvenez de qui Dieu est. La voix du Seigneur résonne à nouveau. Nous allons entrer dans le texte. Nous allons entrer dans le texte de Juges 6. Et je vais situer un tout petit peu. Ça parle des Amalécites. Les Amalécites étaient plus grands que les Israélites, plus nombreux, plus dominants, des guerriers brutaux. Ils s'attaquaient surtout aux femmes et aux enfants. Ils attaquaient tout d'abord les plus faibles. Ils auraient fait n'importe quoi pour tirer profit d'une nation. Ils étaient cruels. Le pire est qu'ils se sont alliés avec les Madianites. Les gens peut-être se mettront ensemble pour vous faire du mal. Les Amalécites et les Madianites se sont mis ensemble pour tailler en pièces Israël. Maintenant, ça fait plusieurs générations qu'Israël se cache dans des grottes. Le Seigneur peut utiliser vos ennemis pour recadrer votre vie, pour vous orienter dans une direction. Quand des choses se passe dans notre vie, quand, par exemple, on devient incontrôlable, quand on abandonne les enseignements de nos pères, quand on commence à adorer des idoles, Dieu permet que nos ennemis dominent sur nous. Dieu permet, pour nous orienter dans la bonne direction, Dieu permet qu'on se fasse massacrer. Il y a des choses difficiles qui arrivent et on se demande des fois pourquoi Dieu permet des choses comme ça. Israël est battu et la famine remplit le pays. À chaque fois qu'ils font pousser quelque chose quelque part, les Madianites et les Amalécites viennent pour les piller, viennent pour les voler. Maintenant, ils se cachent. Ils se cachent pour pouvoir garder ce qu'il a. Ils se cachent pour encore pouvoir faire ce qu'il doit faire. Il a quand même une récolte. Il a quand même quelque chose. Ça fait maintenant plus de 7 ans qu'ils arrivent quand même à vivre comme ça. Mais il doit faire ce qu'il doit faire, caché. Il doit se cacher de l'ennemi. Gédéon est en train de battre du froment au pressoir. Gédéon fait cela parce que dans son parcours de vie, de ce qu'il connaît de lui, il est agriculteur. Pour lui, il est agriculteur. Il fait pousser des froments et il a quand même des récoltes. Il est agriculteur. Il pense que c'est ce qu'il est. Mais à un moment donné, l'ange vient. Et il est au pressoir. Ce qui est étrange, c'est que il a quand même des récoltes, mais son peuple est toujours perdant. Il n'y a pas d'égalité dans la vie. Ce n'est pas tout le monde qui aime que vous réussissez. Ils peuvent même être des gens que vous aimez. Mais vous avez des froments et vous devez les travailler au pressoir. Gédéon est en colère. Gédéon, par rapport à cette situation, se révolte quand même. Il y a quelque chose en lui qui n'est pas tranquille. On lui a parlé de ce Dieu, le Dieu qui a sorti le peuple hébreu d'Égypte. On lui a parlé que c'est un Dieu qui fait des prodiges. On lui a parlé que c'est un Dieu qui fait de la délivrance. Mais dans sa vie, lui, il est prisonnier. Lui, il ne peut pas faire son travail à plein jour. Il doit se cacher pour faire ce qu'il doit faire. Et alors, à un moment donné, il discute avec l'ange. Il se pose des questions. Où est Dieu? Où est Dieu dans cette situation? Si Dieu est comme ça puissant, si Dieu est comme ça bon, pourquoi la maladie dans nos vies? Si Dieu est comme ça puissant, pourquoi toutes ces choses qui nous arrivent? C'est ce qu'il dit. C'est souvent ce qu'on pose à des chrétiens. Si Dieu est vraiment vivant, pourquoi il y a toutes ces choses qui arrivent? Juste 2 phrases par rapport à cela. Chaque personne a son choix, fait son choix. Mais nos choix, Dieu ne va pas faire prévaloir sa volonté par rapport à nos choix. Nous avons notre choix à faire et Dieu est souverain. Gédéon ne sait pas que pendant qu'il marmonne « Mais où est Dieu? Mais où est Dieu ?» Dieu le cherche. Dieu le cherche et Dieu vient au pressoir. Souvent, ce qui arrive dans nos vies, c'est que nos vies sont au pressoir. Beaucoup de personnes maintenant passent par des temps difficiles dans l'Église. Beaucoup de personnes. Des temps de difficultés, des temps de maladie, des temps où Dieu semble loin. Des temps où on ne sait pas où est passé Dieu. Mais l'ange vient. L'ange vient et il se met de côté et il regarde. Le pressoir, c'est un lieu de transition. Chaque lieu où les enfants de Dieu, les projets de Dieu s'accompliront après le pressoir. Dieu veut faire quelque chose de la vie de chaque personne. Et il le fait passer dans le pressoir. Quand vous êtes au milieu d'une transition, quand vous êtes en train de changer de vie, quand vous êtes en train d'être déstabilisé dans votre vie, il y a toutes ces réactions qui viennent. La peur vient, la colère vient, les pleurs viennent, les doutes, les tensions. Il y a tellement de choses qui se passent quand vous êtes au pressoir. Tout votre environnement est déstabilisé. Vous êtes battu au pressoir. Vous êtes dans l'air de battement. Votre vie est comme frappée. Votre vie est comme criblée. Votre vie est prise comme si ça devient difficile. Tout devient difficile et tout devient instable. Et alors, il y a des réflexions qui viennent dans nos vies. C'est la faute de Dieu. C'est Dieu qui a permis cela. C'est la faute de Dieu. Mais pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu fait ceci? L'ange observe et regarde ce jeune homme traverser ce que ce jeune homme fait au froment. Gédéon bat le froment, l'ange le regarde. Et en fait, pour Dieu, c'est nous son froment. C'est Gédéon son froment. Pourquoi? Parce que Gédéon est battu par les Amalécites, battu par les Madianites, dans une situation où il doit se cacher et il est en train de faire cela. Mais pour Dieu, nous sommes son froment. Dieu nous fait passer par des choses difficiles, par des choses où on est criblé, par des choses où on se sent vraiment atteint au plus profond de nous-mêmes. L'ange regarde et il dit, waouh, Gédéon, il est en train de passer par ce qu'il fait au froment. Nous sommes passés au crible. Nous sommes passés au crible, pourquoi? Parce que c'est le moment où Dieu va séparer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Nous sommes passés au crible parce que Dieu va séparer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Il va séparer ce qui compte de ce qui ne compte pas. Il va séparer ce que je peux avoir et ce que je ne peux pas abandonner. Passez au crible. Vous êtes coincé au pressoir et il est en train d'enlever de votre vie des choses les plus importantes dans votre vie. Vous devenez inconfortable et c'est douloureux. Ça vous fait mal, il vous bat, il vous frappe. Vous êtes au pressoir, loin de la foule. Essayant de chercher en fait toutes les promesses de Dieu, essayant de faire ce qui est juste, essayant de fixer votre foi par rapport à Dieu, mais vous êtes frappé. J'ai pris ce texte parce que je passe par ce moment exactement où le froment passe. J'ai pris ce texte parce que l'Église passe par ce que le froment passe. Je prie cela parce que c'est quelque chose de tellement difficile d'être dans cette situation. Qu'est-ce que je fais de ce que j'entends le dimanche quand le lundi je ne vois pas Dieu? Où est Dieu quand je cherche du boulot? Où est Dieu quand je suis malade? Où est Dieu dans ce... relation, dans cette relation. Je me fais battre dans un lieu dont je ne peux pas en parler. Je suis battu au pressoir. Ce qu'il y a, c'est que le pressoir est l'endroit où le raisin découvre qu'il est censé être du vin. Le froment est battu pour devenir du pain. Ce qui se passe avec le pressoir et le froment se passe dans la vie de Gédéon, qui pense être un agriculteur. Dieu utilise les Amalécites et les Madianites pour battre son froment. Seulement, son froment, c'est nous. Il essaie de faire en sorte que du pain sorte du blé. Il essaie de faire en sorte que du vin sorte du raisin. Il essaie de faire en sorte que Gédéon découvre qui il est vraiment. L'ange le salue Et il dit, salut, vaillant héros. Et dès que l'ange le salue, ça déclenche quelque chose en lui. En fait, il se passe quelque chose. C'est lui, il se fait battre, il doit se cacher, il est sous la pression, dans une sorte de transition, en train d'être criblé. Et l'ange dit le contraire, il dit « Salut, vaillant héros !» Il est rencontré d'une manière tellement difficile, parce qu'à l'intérieur de lui, il ne se sent pas comme un héros. Il ne se sent pas comme un guerrier. Il est juste en train de se cacher là. Mais l'ange vient et bouleverse quelque chose. C'est comme chacun d'entre nous. Moi, ici, je suis juste celui qui fait la sono, ou je suis juste celui ou celle qui balaye. Je suis juste celui qui est juste là pour quelque chose. Je ne suis pas le héros que tu dis. Je ne suis pas celui qui est appelé pour des choses qui sont difficiles, comme la guerre. Je ne suis pas appelé pour prêcher. Je ne suis pas appelé pour faire ceci et cela. Je viens de la tribu la plus petite. Je suis le plus jeune de tous les plus jeunes. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cela. Parce qu'en fait, ça, c'est comme si vous dites, « Ouais, mais en fait, moi, je n'ai pas fait la HET. Donc, je ne peux pas prêcher. » En fait, moi, je n'ai pas un don particulier, alors je ne peux pas aller évangéliser. Je suis le plus petit de tous les plus petits. Et c'est comme ça que nous accumulons des preuves contre notre destinée. Nous savons que nous venons de quelque part. Je sais ce que j'ai vécu pour devenir ici. Je connais ma formation. Mais là, ça, c'est ce que je sais. Mais ma destinée ne dépend pas de tout ce que j'ai vécu avant. Il y a eu des moments où je vivais des choses tellement difficiles. Et ça s'est accumulé dans la vie. Dès que je suis face à une feuille d'examen, je perds tous mes moyens. Je ne sais pas pourquoi, mais ma vie a été comme ça. Mais ma destinée ne s'est pas arrêtée là. Quand, à un moment donné, je proclame le nom du Seigneur dans ce que Dieu a appelé à vivre dans ma vie, ça c'est ma destinée. Il y avait 50 000 personnes et 20 000 personnes se sont converties. Ce n'est pas parce que je panique devant l'examen que ma destinée est arrêtée. Ce n'est pas parce que je vais mal dans tel ou tel domaine ou bien parce que je n'ai pas réussi dans tel ou tel domaine que je suis arrêté dans ma destinée. Il y a un ange qui vient. Si vous êtes au pressoir ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a un ange qui vient. Et cet ange a une information que vous n'avez pas. Cet ange a une information que vous n'imaginez même pas. Parce que moi, ce que je sais, c'est que j'étais un enfant battu, par exemple. Je sais que j'étais abandonné par ma maman, par exemple. Je sais qu'il y a telle ou telle ou telle chose, des difficultés que j'ai vécues. Mais l'ange vient et il donne une information et il dit « Vaillant héros !» Vaillant héros, vaillante héroïne. Des informations qui existaient déjà avant la fondation du monde. D'où vient cette information? Des informations que Dieu a mis dans la réalité. Il amène dans la fin des temps. Il amène dans le visible. Des informations cachées. Nous, nous savons qui nous sommes, ce que nous avons fait et comment nous vivons. Mais à un moment donné, il y a une autre information. Notre source qui vient et il dit « Vaillant héros !» Gédéon est en train de se cacher des Madianites, faire son travail. Et tout d'un coup, il y a un appel qui vient. L'appel divin vient. L'appel qui vient de l'origine des temps vient sur sa vie. C'est un appel élevé. C'est un appel au-dessus de tout ce que je pouvais espérer. Moi, je sais que je suis mécanicien, mais l'appel de ma vie, vous le voyez ici. Flo, elle pensait qu'elle était infirmière. Toute sa vie, elle passe sa vie à être infirmière. Mais à un moment donné, l'appel de Dieu vient. L'appel est amené par un ange. Vous, vous êtes en train de transpirer, de vivre des choses difficiles, mais Dieu, lui, il envoie son messager et il envoie l'appel. L'appel est dévoilé. Gédéon se demande d'où ça venait. Gédéon est au pressoir car il est possible de ne pas savoir qui vous êtes vraiment. Qui vous êtes dans votre trip? Qui vous êtes? Est-ce que vous êtes l'évangéliste que l'Église attend depuis si longtemps? Est-ce que vous êtes l'intercesseur que Dieu attend depuis si longtemps? Est-ce que vous êtes cette personne tant espérée? Est-ce que c'est vous qui devrez être ici à ma place? L'ange vient et te donne une information que je n'ai pas. Il y a des choses pourquoi vous avez été créé. Et en vous, Dieu a mis tellement de choses. Si vous savez, si nous savons tout ce que Dieu a mis en chacun d'entre nous, à chaque fois que nous avons été désespérés et que nous avons été battus, à chaque fois que le moral était au ras des pâquerettes, à chaque fois qu'il y a eu des choses difficiles, mais que vous vous êtes quand même levé, vous vous êtes quand même levé le matin, vous êtes quand même allé au travail, à chaque fois qu'il y a des mauvaises nouvelles, mais vous avez encore recommencé quand même. Il y a tellement de difficultés qui viennent dans la vie de tous les jours. Mais vous avez passé par-dessus. Si vous savez à quel point vous êtes endurant, si vous savez à quel point vous êtes fort, tenace, il est possible de ne pas savoir, car le sentiment ne valide pas votre réalité. Ce que vous pensez de vous, ce n'est pas ça qui compte. Ce que vous pensez de ce que vous pourrez faire, c'est pas ça. Mais il y a une information qui vient d'ailleurs, qui vient dès l'éternité, qui vient dès la fondation du monde. Et c'est un appel élevé. C'est un appel pour la cause du royaume. C'est un appel pour amener le royaume de Dieu sur la terre. Vous pouvez avoir l'impression de vous effondrer, mais vous continuez quand même à vous battre. Vous pouvez vous sentir comme la victime, mais vous êtes le vainqueur. Vous pouvez sentir les limites. Vous n'avez pas toujours épuisé la ressource que Dieu a mise en vous. Combien de fois j'ai perdu espoir? Combien de fois? Combien de fois? Notre destinée est formée par rapport à l'appel. Avant la fondation du monde, je te connaissais. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi établis. À l'instant même où l'ange lui dit « tu es un guerrier », il y a un conflit à l'intérieur du cœur de Gédéon. Il ne se sent pas du tout comme un guerrier, mais l'information vient de l'ange et l'ange lui dit tu es guerrier. Au moment où Gédéon se sentait au plus bas, au moment où Gédéon se sentait abandonné de Dieu, au moment où Gédéon était vraiment, il se sentait inutile, qu'il n'avait pas les moyens, c'est à ce moment-là que l'appel vient. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu dire à quelqu'un que malgré le fait que tu te sens comme ça moindre, malgré que tu te sens comme ça abandonné, sans force, même si tu sais que tu es dans un temps de transition, je suis venu te dire ce matin qu'il y a quelque chose dans ta destinée, qu'il y a un message qui vient de l'éternité. Gédéon a laissé tomber le froment, parce que quelqu'un l'a appelé héros. La parole nous dit que vous êtes la tête, mais pas la queue. La parole nous dit que tu es d'en haut, mais pas en bas. La parole nous dit que vous pouvez tout faire par Christ qui vous fortifie. La parole est avec chacun d'entre nous et c'est la parole qui nous ramène dans notre destinée de l'éternité. Gédéon a commencé à vivre seulement quand il est entré dans son appel. Avant cela, il vivotait. Avant cela, il se cachait. Avant cela, il se prenait pour un agriculteur. Mais en fait, Gédéon était appelé pour autre chose. Il était appelé pour... La Bible raconte qu'il a assemblé le peuple. Il a d'abord enlevé toutes les idoles. Et après les signes qu'il a demandé à Dieu, il est entré dans sa destinée. Il a commencé juste à vivre. Il a commencé à entrer dans ce que Dieu a prévu pour lui. Gédéon ne savait pas que 120 000 personnes seraient tuées par 300 personnes qu'il a assemblées. C'est impressionnant. Il y a des choses qui ne dépendent pas de notre capacité à nous, de ce que nous pensions être notre réalité. Je dis, on commence à vivre seulement quand il entre dans son appel. Pourquoi? Parce que Dieu bénit ceux qu'il prédestine, il les justifie et il les glorifie. Chacun d'entre nous, nous devons comprendre que nous sommes placés dans le temps pour un but divin. Nous sommes placés dans cette terre pour un but qui en fait, qui nous dépasse. Si Gédéon savait qu'il serait dans la Bible, s'il savait que c'est vraiment lui que Dieu a appelé pour terrasser l'ennemi, il aurait vécu sa vie autrement. À partir du moment où tu entres dans ton appel, c'est là que tu accomplis ta destinée. Le pressoir est comme un trou. Pour quelqu'un ici, il suffirait que tu sors de ce trou pour entrer dans ta destinée. Ta capacité n'est pas la capacité de Dieu. Ce que tu penses être, ce que tu vis, n'est pas la destinée que Dieu a préparée pour toi. Dieu a préparé dès la fondation du monde et il a fait venir l'information depuis très très loin. De là où il est. Aujourd'hui, avec toute cette histoire de Gédéon, qui pensait être un agriculteur, quelqu'un va comprendre que, en fait, il y a quand même un appel de Dieu sur sa vie. À partir du moment où tu entres dans ton appel, c'est là que tu commences à vivre. C'est là que tu commences à entrer dans ta destinée. Et c'est là que tu valides ce qu'il y a dans l'éternité. Le but de Dieu, c'est que tu aies une nouvelle compréhension de qui tu es vraiment. Tu sembles peut-être être dans une sorte de pressoir. Tu sembles peut-être comme un froment qui est battu de tous côtés. Mais le but de Dieu, c'est que tu sors de là et tu accomplisses ta destinée. Et c'est là qu'il t'appelle vaillant héros. Vaillant héros. Je prie pour que cette parole du Seigneur déclenche quelque chose en vous. Que ça déclenche quelque chose dans votre appel personnel. Que ça déclenche quelque chose dans qui vous êtes, la compréhension de qui vous êtes. Que vous n'allez pas juste vous décourager parce que les choses ne vont pas bien. J'ai choisi ce texte parce que même dans ma vie, il y a autant de combats. Mais je choisis d'écouter le message de Dieu. Je choisis d'écouter le message de cet ange. Je choisis d'écouter la parole de Dieu, les promesses de la parole. J'ai le choix. Je peux le faire ou pas. Mais je choisis d'orienter ma vie par rapport à l'éternité. Amen. Je vais juste prier. Père, je te loue pour ton amour et ta grâce. Merci pour tout ce que tu as accompli aujourd'hui. Père, c'est toi qui mets dans nos cœurs. Je demande que tu envoies ton ange avec chacun. Que quelqu'un reçoive, Seigneur. Que quelqu'un puisse entendre qu'il n'est pas seul au pressoir. Même s'il se sent battu comme le froment, je prie, Père, ce matin, que la personne ne se sente pas seule. Je demande une révélation qui te fasse connaître. Je demande un esprit de sagesse. Je demande un esprit de connaissance. Je demande que tu ouvres les yeux du cœur de quelqu'un. Je te demande de démontrer quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, à ton appel pour elle, à ton appel pour lui. Et quelle gloire y est attachée. Père, ce matin, je te remets chaque personne dans sa course. Chaque personne qui s'est sentie le moindre, le plus petit. Je demande, Père, ce matin, une révélation qui vient de toi, une information qui vient de très loin. Je demande que tu parles à leur cœur, par ton Esprit Saint et par ta parole. Père, que tu puisses bénir cette Église. Alors que l'Église passe par des temps difficiles, je te demande de combattre, de lever et d'appeler. Je te demande de combattre pour eux. Père, je prie ce matin pour ceux qui sont malades. Je prie pour que ta main soit posée sur ceux qui sont malades. Seigneur, peu importe ce que c'est, tu peux mettre le nom que tu veux mettre dessus. Mais au nom de Jésus-Christ, je dis que c'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Le sang de Jésus-Christ purifie toute souillure, toute maladie, tout ce que l'ennemi a fait au nom de Jésus. Seigneur, si quelqu'un a besoin que tu prennes par la main ce matin, je te demande de le lever. Je te demande de le prendre en charge. Père, lève-toi. Lève-toi au milieu de ton Église, Seigneur. Et nous te confions tout notre avenir. Merci Seigneur pour ta guérison. Merci Seigneur pour toutes tes interventions. Merci parce que c'est toi qui changes les situations. Merci Seigneur pour la destinée que tu as préparée pour chaque personne. Je te loue pour cela. Amen, amen.